Vous écoutez
RMC.
RMC.
Moins il y aura de matchs à jouer, moins il y aura de points à prendre pour nos concurrents.
Une leçon de mathématiques.
69, 64, 63,
11 fois 14.
114.
154.
Compte tenu que j'ai eu mes diplômes dernièrement, maintenant je me prends pour un professeur de mathématiques.
Jusqu'à minuit 30, l'After Foot.
Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, l'After continue exceptionnellement jusqu'à minuit 30 en raison de la séance de tir au but entre City et le Real. L'After est là jusqu'à minuit et demi sur RMC, sur la chaîne YouTube de l'After, After-Foot, l'After première radio de France le soir. Votre espace de liberté, à vous les supporters, pour débattre de foot avec ce soir Manu Petit. Salut Manu.
Salut, salut tout le monde.
Avec Daniel Riolo. Salut Daniel.
Bonsoir les amis.
Et avec Fred Hermel.
Grand
qui a
sourire.
Déboulé dans le studio tel un
fou furieux. Tel un taureau dans l'arène.
Oh la ticos. Je vais pas faire le mec. Oui, je suis content. Je vais dire non, je suis neutre.
Tu es là, en Grande-Bretagne hier soir.
Avec ses Ferrero Rose d'Or d'ambassadeur.
C'est super. Non, mais franchement, quel. Enfin, on va
vérifier. Ça s'est fait éliminer. Madrid est en demi.
Franchement, là. Il se touche du bois.
Il lui reste quand même le PSG à devoir supporter.
Ah, écoute.
Il l'a pas en finale, le PSG.
Le Real, quand même. On est d'accord là.
Tu veux que ce soit totalement l'histoire de l'histoire Mbappé.
Avec
que ce soit l'année Mbappé.
Tant qu'on y est.
Tout pour lui quoi.
Tant qu'on y est.
C'est-à-dire il a sa finale.
Non mais tant qu'on y est, finale PSG Real.
Oui mais alors il fait le match de sa vie, il fait gagner le PSG.
C'est tant qu'on y est.
Il est rouillé.
C'est pas tant qu'on y est.
Tant qu'on y est.
Tant qu'on y est. Arras.
Moi je veux bien de tous les symboles, de toutes les histoires à raconter de Mbappé en finale, mais alors il fait le match de sa vie, il fait gagner le PSG. Je veux que ce soit ça.
Oui, parce que t'imagines toi celle-là.
Parce que
je veux pas l'inverse.
Je signe pour ce scénario là aussi. Moi. Bah oui, évidemment.
Bon, évidemment.
Après, il a la coupe comme ça, il fait bon, et maintenant je vais au Real.
Mais
tu peux y aller. On t'accompagne.
Tu l'emmènes dans ta Fiat 500.
Oui. Ah oui, mais même à pied. Je suis pas à vélo, j'ai acheté un nouveau vélo, porte-bagages. Allez, oui, Kylian, va à Madrid.
Les autres drôles de la Marie dans quelques minutes, les gars. Ce sera Bayern-Real avec match retour à Madrid.
Et ça, c'est un gros avantage quand même.
Pour ce deuxième demi-finale.
Et puis attends, et Bayern-Real, c'est le classico européen.
Ouais.
Tiens, le classico espagnol, c'est Real Barça. Le classique vraiment européen,
Bayern
c'est
Real.
Real.
C'est vraiment avec le Bayern qui se fait toujours fourrer par une décision d'arbitre bizarre.
Bah oui, il faut pas que ça change, il faut respecter les traditions.
Ça monsieur. A changé hier soir, monsieur.
Ah, c'est pas hier soir.
Ça a changé.
Il n'avait pas le choix, Daniel, hier soir. Tu parles quoi de l'expulsion, des choses comme ça.
Mais il n'y avait pas le choix, Manu, mais on en a vu d'autres, mon vieux.
Attends, si
on en a vu d'autres
avec le
Barça.
Les joueurs hier, mais laisse tomber, quoi.
Mais Manu. Ah, on en a vu d'autres avec le Barça.
Non, mais c'est trop gros.
Mais moi, je suis d'accord avec toi, mais on en a vu d'autres. Bon. On en a vu d'autres.
Les gars,
on en a vu des décisions en Ligue des Champions.
Restons sur le match de ce soir, on a un after court, il faut aller à l'essentiel.
Quand ça tourne en ta faveur, profite,
oui,
mon ami. Profite
quand même.
T'inquiète, profite. Là, c'est pas pareil.
Allez, le Real, ils savent profiter.
Manu,
oui.
On a quand même vécu deux soirées, la Ligue des Champions. C'est quand même un truc de fou.
Bah oui, c'est pour ça.
Génial.
Moi, je veux pas de Super League. Hein. Je sors du débat.
Ah, c'est la même chose, hein, Manu, en fait. Hein.
Ouais, non, mais je ne parle pas
de ça. C'est les
mêmes équipes. Oui, mais ça sera un championnat fermé.
Non,
non, en fait, c'est pas du tout pareil.
Non,
rien,
moi je préfère ça, voilà.
Oui,
donc c'était quoi ta question?
C'était génial. Ma question, c'est est-ce que c'était génial? La réponse est oui.
Ah oui, ça.
Bah oui, sincèrement, les matchs aller, les matchs retour, il y a eu du suspense, des scénarios incroyables, des rebondissements, des buts, des exploits, des cagades. Enfin, il y a eu tout, quoi, de l'émotion.
Et ce soir, le tenant du titre qui a fait le meilleur match, hein, je veux dire, clairement.
On va en parler, oui, je pense que quand même, oui. Il y a une équipe qui est venue pour jouer limite la deuxième mi-temps comme une Ligue 2 contre une Ligue 1 en Coupe de France.
C'était PSG-Metz.
Bah, non, mais c'est-à-dire que
PSG-Metz au Parc des Princes.
Ouais, mais n'empêche, la question, c'est que le Real, au bout de la 14e minute, tu marques à City, qu'est-ce que tu fais?
Non, c'est pas ça le raisonnement. Le raisonnement au match aller, ça n'a pas été ça. Au match aller, tant qu'ils ont pu le faire, le Real a proposé autre chose qu'un bloc bas défensif.
Bien
ils ont proposé autre chose qu'un bus. Là, ce soir, c'est vrai qu'en marquant vite, l'option a ensuite été le repli.
Bien sûr. Et ça a failli marcher, parce que s'il n'y a pas Rudiger qui glisse.
Et la vérité, c'est que je sais pas, parce que c'est exactement ce que le Barça contraint a été obligé de faire hier, et ils ne savent absolument pas le faire, parce qu'ils sont pas formés pour ça, ils n'ont pas l'habitude de faire ça, ils ne rentrent pas dans un match pour faire ça. Là, la question est-ce que le Real, à un moment, dans la préparation de ce match, s'est dit, sachant qu'en plus, l'année dernière, on avait pris une valise, est-ce que l'option qu'on verra pas le ballon, et qu'on va se replier, qu'on va jouer bloc bas, c'est une option à prendre en compte, et est-ce qu'on la travaille, ou en tout cas, est-ce qu'on en parle? Je pense qu'un mec comme Carlo Ancelotti a forcément évoqué ce truc-là, et s'est dit, en beaucoup plus que le Barça. Nous, on a des joueurs capables de défendre. Bah, Rudiger, il aime la baston. Nacho, il aime la baston. Il est capable de défendre bas, à défaut de défendre haut. Carvajal, il termine avec des crampes. Mais il est capable d'aller à la baston aussi.
Bon, il faudrait conforter un homme. Un ami, un confrère, un collègue. Il en a perdu deux ce soir.
L'Angleterre a disparu.
L'Angleterre a disparu.
C'est une île, t'enlèves le bouchon et c'est fini, ça coule.
Julien Laurence, bonsoir.
Salut à tous.
On a retiré
merci
le bouchon de la baignoire.
Merci pour ton soutien. Non, c'est des vrais amis, ça.
Bon, cela dit, là.
Pense à Polo qui est en train de rêver d'une finale 100% allemande.
Ouais. Là, c'est toute la cruauté du football pour City, là.
Ouais, bien sûr, bien sûr. Je peux vous dire qu'au stade, sur le pénalty de Rudiger, la clim, elle est descendue très vite, hein. Un match où finalement ça ressemble un petit peu au City d'avant le titre de la saison dernière, ce City qui on l'avait souvent dit, souvent dominait comme ça, que Guardiola invente quelques trucs ou pas, et qui au final parfois manquait un peu du côté un peu expérience, savoir-faire un peu vicieux parfois.
Et ce soir, ça n'a pas été le défaut. Ce soir, ça a été d'inefficacité, de tomber sur une équipe qui a remarquablement bien défendu, même s'ils ont joué un football qu'on n'est pas habitué à voir de la part du Real. Et logiquement, une équipe du standing du Real, ça devrait pas jouer comme ça. Mais quand t'es contraint de jouer comme ça, bah t'es contraint. Mais City, est-ce que tu dois mettre également sur le dos? Quand tu veux jouer ce football-là sur le dos de certains joueurs qui ne sont plus aussi forts qu'ils l'ont été. Ce soir, De Bruyne, et Dieu sait que j'adore ce joueur.
Il était bon ce soir.
Ah, mais Haaland.
Mais peut-être pas
aussi. Le problème, c'est Haaland.
Alors, j'allais venir au dossier Haaland après.
Bah, le dossier Haaland
de Bruyne en priorité, parce que, et vraiment, si j'en parle avec le cœur, c'est un de mes joueurs préférés. Oui, il a été bon, mais pas aussi bon qu'il a pu être, je trouve. Cette année, il a moins joué.
Il y a Foden que j'ai pas trouvé Foden, le match. Il a disparu.
Sur un côté, hein.
Ouais, Julien, vas-y, toi qui étais au stade.
Non, mais pour rejoindre ce que dit Manu, Foden sur un côté, on en a parlé des millions de fois. À un moment, c'est plus possible, quoi. Parce que tu l'utilises pas comme tu devrais. Il est pas aussi efficace qu'il devrait. Il est pas aussi bon qu'il le devrait. Pour le talent qu'il a, c'est un des problèmes de Julien dans cette
position.
Il est bien meilleur dans l'axe.
Non, mais pas dans ce genre de match-là. Pas dans ce genre de match-là. Et sur De Bruyne, je trouve peut-être un tout petit peu dur parce qu'il y a quand même des très bonnes choses.
Ah oui,
Non, mais il marque quand même. Donc,
je suis un peu braqué sur son occasion pour lui, pour un mec
de ce niveau.
Le play, c'est chiant. C'est vrai que cette occasion m'a fait un peu mal au cœur parce que d'abord, c'est la balle de victoire et pour lui, ça me semble tellement facile.
La faillite là du match aller-retour d'ailleurs, c'est Haaland.
Ah oui.
C'est normalement censé être le mec qui te fait la.
Et ce soir, c'est Nacho qui est sur lui.
C'est même pas Rudiger,
c'est Nacho. Nacho qui est quand même en vraiment fin de carrière.
Bah, tant qu'à faire, ils ont sacrifié un mec qui sait quand même encore défendre. Ils ont dit, de toute façon, toi, tu vas pas nous apporter grand chose. Occupe-toi de lui.
Et
lui, il est important normalement dans le rôle de pivot, de fixation. Mmh. Et c'est vrai qu'en plus, mais globalement cette année, corrigez-moi si je me trompe, toi, Manu, qui suis beaucoup la première année, entre le Haaland de l'année dernière qui était candidat au Ballon d'Or et celui de cette année, il y a un monde. Hein.
Il a beaucoup moins d'efficacité, on le trouve beaucoup moins. Ses partenaires arrivent beaucoup plus de mal à le trouver dans la surface de réparation. Mais je trouve qu'en fait, il est très fébrile dans les duels. Par son gabarit, il devrait imposer un duel défenseur centraux. Et je trouve qu'il se fait souvent battre dans les duels. Il n'est pas ce point de fixation que City adore quand ils font le siège de la défense adverse, en fait.
Vu du stade, Haaland, Julien.
Ah, ce soir, c'est compliqué. Sa première passe à la 37e minute. Pendant 37 minutes, il est sur le terrain sans faire une passe. Je sais pas si on se rend bien compte.
Après,
à ce niveau-là.
Est-ce que le jeu l'avantage beaucoup ?
Non, mais c'est compliqué parce que effectivement, quand tu joues comme ça contre une équipe qui joue aussi si bas, il a finalement très peu d'espace. Il a rien. Donc, Daniel. Une passe après 37 minutes, il fait deux passes en première période.
Mais surtout qu'il y a une stat qu'a donné Stéphane Guy là, qui commentait le match. À peu près vers un quart d'heure de la fin, avant la prolongue, il dit il y a eu 70 ballons touchés par City dans la surface du Real contre 8 ballons du Real dans la surface de City. Faudrait voir combien de ces 70 ballons a touché Haaland en fait.
Bah, pas beaucoup, il a eu la tête sur la barre, il a fait quelques. Bah, je pense qu'il en a dû en toucher une dizaine. Mais quand je vois en comparaison sur les peu de ballons qu'ont eu Madrid dans la surface de réparation et que je vois comment ils l'ont exploité, que ça soit Vinicius ou Rodrigo, ils n'ont pas eu beaucoup de choses à se mettre sous la dent. Mais ils ont été plus dangereux sur les rares occasions qu'ils ont eues que Haaland sur l'intégralité du match.
Oui, après c'est logique.
Ce ballon dans 9 fois dans la surface,
un jeu de contre-attaque ou
9 fois, tu vois, 9 fois, c'est rien.
Contre un jeu de position où Haaland effectivement a été étouffé, quoi.
On va parler d'Arsenal dans quelques minutes, mais quand même là, petite mise en perspective, Julien, là, le fait que les Anglais disparaissent, tu penses que ça va être pris comment là chez toi?
Mal, je pense. Après, est-ce que la course au titre incroyable qui se joue entre
même,
City,
comme
Liverpool
d'habitude.
Et Arsenal, tu vois, non, mais à un moment, c'est ce que les Anglais disent. Alors, je pense pas qu'ils vont se trouver d'excuses, mais t'as une telle intensité dans le championnat que finalement les trois soient éliminés, parce que Liverpool demain, à part un miracle à Bergame, je vois pas comment ils pourraient remonter le 3-0 du match aller. Saison en championnat a été tellement intense, tellement disputé, tellement... Peut-être, c'était un petit peu les problèmes d'avant aussi, d'avant la domination anglaise, dans un sens, en Coupe d'Europe, je ne sais pas. Ce serait intéressant de voir, je ne sais pas si...
Je ne sais pas, Julien, sincèrement, dans la mesure où City, ce soir, doit gagner 100 fois le match. Ils ont tout pour gagner le match et en fait ils perdent au pénalty alors que face à une équipe qui n'a fait que défendre quasiment pendant tout le match.
Manu, depuis 2017 et l'arrivée de Guardiola en Ligue des Champions, combien de matchs tu mets sur une feuille de papier avec à côté la mention City devait gagner?
Quasiment tous les matchs
en Ligue des Champions. Et l'autre, la colonne, ils ont gagné parce qu'ils devaient gagner.
D'ailleurs, ça soulevait le débat de jouer sur 9 pendant un moment.
Tu sais que tu vas avoir une quantité de matchs que City devait gagner assez énorme.
Je suis d'accord,
Je crois que peut-être, comme ça, hein, de mémoire, hein, il faudrait que je les liste tous, mais il y a celui où ils se font bastonner par Liverpool 3-0. On va dire que celui-là, il ne devait pas le gagner. On est d'accord. Cette double confrontation a été pour moi la seule où vraiment, on va dire, bon, Liverpool était intouchable. Mais les autres, moi, j'ai tout le temps eu l'impression que... Ils devaient gagner. Ils dominent.
Non, puis il y a autre chose aussi, Julien.
Non,
c'est
Monaco,
les effectifs de ces clubs-là anglais.
Il dit Monaco, la première saison.
Le Monaco 2017.
Monaco, première saison.
Ouais, bah tu dis quoi de ce match-là?
Sur le match retour, ils perdent 3-1. Il y a pas photo, quoi.
Ouais, et le match aller, il y a 5-2.
Il y a Lyon,
Lyon, ils doivent le gagner 1000 fois.
Courte pause.
Lyon, ils doivent le gagner 1000 fois. Tottenham, ils doivent gagner 1000 fois.
La plupart, c'est
comme ça.
Et ensuite, on continue le débat avec tous ensemble. On aura Farouk qui est supporter de Real également. Je vous rappelle que comme tous les jours. C'est peut-être lui. Je vous rappelle que comme tous les jours, jusqu'à vendredi, on vous fait gagner vos places pour les Jeux Olympiques. On est désormais à 99 jours. Il est minuit 2. Donc, si vous voulez participer, on a des places magnifiques encore ce soir. Et bien, vous envoyez dès maintenant par SMS Paris 2024 au 7-32-16. Vous envoyez Paris 2024 par SMS au 7-32-16. Le gagnant sera avec nous tout à l'heure. Si vous aimez l'athlète, normalement, je donne un indice. Soyez à l'écoute. Voilà. Dans un instant, on continue l'analyse des matchs du soir avec Manu, Daniel, Fred, Julien et Polo qui nous rejoint un peu plus tard pour nous parler du Bayern. Là, tout de suite dans l'after sur RMC.
RMC jusqu'à minuit 30, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Il est minuit 5, Manu Petit avec nous, Daniel Riolo, Fred Hermel, Julien Laurence, analyse des matchs de Ligue des Champions du soir. Et Farouk est avec nous, 32-16, supporter de Real. Salut Farouk.
Salut à tous.
Salut Farouk.
Bon, Farouk, est-ce que tu as l'habitude de voir ton équipe comme ça subir, se recroqueviller derrière? Alors, si tu veux le voir positivement, on peut dire que les grands joueurs du Real, eux, défendent tous.
Bah après, si tu veux, déjà, si tu regardes le match aller, on avait fait un meilleur match, hein, en termes de jeu. Maintenant, face à City, en jouant chez eux, on savait qu'on n'allait pas avoir le ballon. Donc, il y a une chose que vous n'avez pas noté, c'est comme inédit dans l'histoire du Real, arriver à ce niveau-là sans un attaquant. C'est la première fois qu'on arrive à ce niveau-là sans un numéro 9. Et c'est quand même assez hallucinant le travail que fait Carlo. Maintenant, sur le match, bon, il était difficile de faire du jeu face à une équipe qui a vraiment le monopole du ballon. Maintenant, je trouve que moi, Guardiola nous a beaucoup aidé, parce que avec une équipe comme City, avoir autant de milieux et pas jouer avec deux attaquants, parce que je pense que City avait largement la place de jouer avec deux attaquants pour pouvoir peut-être revenir et tuer le match. Après, concernant le Real,
non, deux attaquants, je vois pas bien ce que ça aurait changé avec le nombre de joueurs offensifs qu'ils ont alignés à un moment avec les milieux offensifs. Ouais, Bernardo Silva, Foden,
Haaland. Ouais, mais ils étaient tous au milieu, tu vois, il y avait personne en pointe, enfin, il y avait pas deux attaquants pour gêner vraiment la défense. Mmh. Ils étaient plutôt sur la ligne du milieu ou sur les côtés, mais si tu veux, Haaland, il était tout seul. Donc, en tout cas,
il jouait tellement haut que je vois pas ce que ça aurait apporté, à vrai dire.
Mais tu peux aussi jouer avec deux attaquants, mais bon, bref, après ça, c'est un autre débat. Non, mais écoute, moi, je suis très content parce que la seule équipe qui pouvait battre City à ce niveau-là de la compétition, c'était le Real. On a fait le job. Maintenant, est-ce que j'étais content que le Real joue ainsi? Non, c'est pas dans notre ADN. Maintenant, quand tu joues face à un jeu comme tu as de City, c'est très difficile de proposer du jeu. Moi, je pense qu'on aurait pu mieux faire en termes de jeu. Maintenant, on verra à l'avenir comment les choses vont se dérouler.
Je suis d'accord avec toi, Farouk, mais que retient l'histoire? Que le Real Madrid s'est qualifié pour la demi-finale de la Ligue des Champions en mettant 4 buts au Manchester City de Pep Guardiola. Puisque le Real a marqué 4 buts
face. Personne ne l'a fait, hein, je veux dire.
Voilà, sur 2 matchs, 4 buts sur 2 matchs. Donc, voilà.
Et d'ailleurs, on est la seule équipe à battre City à la maison.
Ça veut rien dire, tu m'as sorti une.
Vas-y, Julien.
Ça veut rien dire. Avec Crystal Palace, ils ont marqué plus de buts à l'Etihad que Real Madrid.
Oui, très bien. Non, Real Madrid. Non, mais je veux dire, c'est pas 0-0-0-0.
C'est vrai que je sais pas trop pourquoi ça vous a botté de dire ça. En fait.
C'est-à-dire une équipe ultra défensive, une équipe ultra défensive qui met 4 buts à City.
On est la seule équipe espagnole arrivée en demi-finale.
C'est tout. Dans un championnat qui va pas bien.
Non, on avait dit
c'est pas 0-0-0-0, c'est 3-3-1-1.
Non, mais il faut pas se défendre, défendre d'avoir été
comme
vous avez été ce soir, à savoir de défendre le cul dans sa surface quand tu peux pas faire autrement.
Non.
Eh ben tu fais pas autrement. Tu essaies de te qualifier avec les bouts qui te restent. Après, n'ayez pas honte que ce soit pas glorieux, c'est pas un problème. L'important, vous êtes en demi. Le Real, c'est une équipe qui aime la win. Ils ont la win.
Bien sûr, voilà,
Carlo, il sait de toute façon monter une équipe pour gagner et pour faire. Quand t'as pas des 1000 et des 100, bah tu fais avec moins.
Et ouais, parce que le Real finit le match avec Lucas Vasquez.
Comme a dit l'auditeur, cette année, très bizarrement, vous avez à la fois une équipe très forte sur certains postes et faible sur d'autres, avec pas mal de blessés. Bon, bah écoute, le Real,
il n'y a pas Courtois,
c'est une équipe.
Il y a Militao qui joue 5 minutes.
Je dis souvent, c'est une équipe qui a une telle personnalité. C'est une équipe qui a une telle personnalité que moi, ça m'épate toujours. Tu joues avec Carvajal, que tout le monde donne cramé depuis 5 ans, depuis ça fait 10 ans qu'on dit qu'il est cramé. Le mec, il est tout le temps il donne tout. Rudiger. Il y a encore 5 ans, je me souviens quand il était à Chelsea, il y a des gens qui le donnaient comme pire défenseur de la PL, limite. Nacho, c'est toujours le remplaçant du remplaçant.
En plus, il fait une mauvaise saison.
Il est là,
Nacho.
il fait son max. Modric, il a 52 ans.
Non, Modric, coup de vieux quand même.
Bah oui, coup de Dieu.
Il rentre
à la 72e et tout, il fait ce qu'il peut.
Ouais, mais ça n'a pas été génial.
Le seul espoir, c'est de donner un bon ballon sur Vinicius pour qu'il place une accélération et qu'il trouve éventuellement un appui sur Rodrigo. Et leur but, honnêtement, Bellingham, qui est la star de l'équipe, le décalage qu'il fait, le débordement, le centre, la finition.
C'est sublime.
Bah, écoute, le but, au niveau du spectacle,
c'est pas pareil de faire 0-0, 0-0, que de faire 3-3-1. Excuse-moi, on a vu des buts. La semaine dernière, on a vu un match exceptionnel.
Hier, on a vu un match absolument incroyable la semaine dernière. Mais ce soir, il est très intéressant.
Il est super, ce match.
Il est très intéressant aussi.
Que techniquement, c'est quand même du très niveau.
Le Real me semble nettement en dessous de City, mais ils ont gagné. Voilà.
Bien sûr qu'ils sont en dessous.
Ils ont éliminé, évidemment. On prépare.
Je pense que le Real, ils étaient menés 3-2 s'il n'y a pas cette frappe extraordinaire de Valverde pour égaliser. C'est pas du tout la même attitude qu'à le Real. Non, parce que le Real, ils égalisent là-bas et au bout de 14 minutes, ils marquent un but à City. Automatiquement, ça t'oblige à jouer comme ça face à une équipe aussi bonne ou aussi offensive.
Qu'est-ce que Guardiola aurait pu faire de différent ou de plus?
Moi, enfin, je l'ai dit pendant le match. Moi, je voulais Doku dès le départ, parce que Doku a une capacité de perforation et d'élimination qui, pour moi, est assez rare à ce niveau de compétition au très haut niveau. Parce que Grealish, je trouve qu'il fait toujours les mêmes schémas. C'est prévisible à chaque fois. Il va fixer. C'est un joueur de fixation. C'est pas un joueur qui élimine. Donc, face à une défense regroupée. J'aurais bien aimé de voir ça, et j'aurais pas voulu, et je voulais pas avoir Foden sur le côté. je voulais le voir dans l'axe, moi.
Foden, comment tu faisais par rapport à De Bruyne?
Tu aurais pu mettre Silva côté droit. Il a souvent évolué côté droit. Et mettre Foden à sa place. Voilà.
Moi, l'histoire de Doku, je comprends ce que tu veux dire. Néanmoins, d'abord, jusque-là, dans les gros matchs, il fait plutôt Doku et encore un remplaçant. Et après, son idée de, à force que l'équipe recule, je mets Doku plus tard dans le match, peut-être. Alors, je te suivrais si tu avais dit il est rentré peut-être trop tard. Mais que ce mec-là, qui a une telle faculté de percussion, rentre sur une défense fatiguée, moi, quand je l'ai vu arriver, je me dis, bon, bah là, je pense que sur le côté, ça va être du beurre. Donc, l'idée de le faire rentrer un peu plus tard sur une défense fatiguée, je la comprends.
Je ne sais pas, parce que moi, j'ai toujours aimé les équipes de Guardiola lorsqu'il y avait justement des joueurs excentrés sur les côtés qui étaient capables de faire la différence balle au pied et d'aspirer justement des joueurs de l'axe sur les côtés qui ça pouvait bénéficier à ses partenaires. Je suis désolé, mais Silva n'est pas un dribbleur. C'est un dribbleur, c'est pas un joueur qui va éliminer sur le côté et déborder et faire des centres ou quoi que ce soit. Grealish, c'est pareil. Donc... il a quasiment plus ces joueurs-là sur les côtés. Et je trouve que Foden, il peut jouer sur le côté gauche, il n'y a pas de souci. Mais il est quand même bien meilleur. Il est beaucoup plus utile à City lorsqu'il joue dans l'axe.
Quoi. Julien, d'accord avec Manu globalement là?
Ouais, bien sûr. Sur Foden, on en a déjà parlé encore une fois tout à l'heure. Ouais. J'en avais touché un mot aussi.
Sur le reste.
Et Guardiola ne veut pas de toute façon de De Bruyne et de Foden en 10, les deux. Donc c'est comme ça. Sur Doku, je pense qu'il aurait dû rentrer plus tôt. Après, dans le jeu de position de Guardiola aujourd'hui, Doku, c'est pas ce qu'il recherche. Il recherche plus un joueur comme Grealish. Moi, ce qui m'a un petit peu gêné dans le jeu de position ce soir, c'est que le jeu de position, par définition, te permet de trouver un joueur qui est seul. Et le problème, c'est que souvent, c'était Akanji ce soir. Et une des limites, en tout cas, du jeu de position de Guardiola, c'est que si ton joueur qui est seul, que tu trouves dans des bonnes positions, est un joueur qui, techniquement, est un peu inférieur aux autres, et ben tout l'avantage que tu as de ce jeu de position parfaitement huilé, exceptionnel, où tu arrives à trouver ces décalages pour ton joueur qui est seul, si ça tombe sur Akanji... bah derrière, forcément, en termes de productivité de ce que tu vas pouvoir apporter, c'est moins bon parce que techniquement, c'est pas De Bruyne, c'est pas Foden, c'est pas Bernardo Silva. Et je trouve que malheureusement ce soir, c'est un peu trop souvent tombé sur Akanji et que ça a pas pu faire les différences que finalement le jeu de City aurait dû faire. Et c'est ça un petit peu qui est dommage. Après, oui, Foden passe un petit peu au travers, surtout en première période. Mais après, ils ont assez d'occasions pour l'emporter quand même.
Ah oui, on est d'accord. But, hein. Ah oui, ouais. Oui, oui, bien sûr. Parce qu'on peut toujours débattre d'un tel joueur là, un tel joueur là. Ça reste que des très bons joueurs. Et leur insuffisance pour ceux que tu as cités, c'est pas uniquement dû à ça non plus, quoi.
Ouais, Julien, sur les tirs au but?
Non, c'est clair. Ouais, juste, sincèrement, au stade, et là, encore une fois, pour revenir sur ce que Farouk disait, Fred aussi, la sérénité du Real avant les tirs au but, alors que c'est pas une équipe de tirs au but, hein, c'est pas comme s'ils avaient gagné 12 000 Ligue des Champions au tir au but, c'était assez incroyable à voir. Et on était pas très loin derrière le banc et tout. Et en fait, tu sentais très bien, même avec Lounine dans les buts.
Excuse-moi, Fred. Je veux que tu réhabilites officiellement ce soir devant tout le monde Lounine. Vladimir Ilitch Lounine.
Alors, ce que je veux dire, c'est que c'est extraordinaire. Ça fait 19 ans que le Real Madrid ne jouait pas une prolongation
Tu l'as fracassé,
à l'extérieur, Lounine.
Tu lui expliques qu'il était nul, qu'il était moins bon que Kepa.
C'est pas moi.
Pour toi. Bien sûr,
j'ai jamais dit qu'il était moins bon que
tout le monde, que Gaëtan Lua.
Qui était moins bon que Kepa. Non, c'est pas moi. C'est-à-dire que Courtois, le meilleur gardien du monde, se blesse. Le Real ne fait pas confiance à Lounine. Va chercher Kepa. Au bout de quelques matchs, il se rend compte que Lounine est meilleur que Kepa. Voilà. Donc, mais Lounine, c'est sans aucun doute la révélation de cette saison.
Alors, la tête d'Ivan Drago,
le mec, il a pris un niveau là. Alors, il n'est pas exceptionnel, mais sur les tirs au but, après, il travaille.
Il est meilleur que Donnarumma. Hein.
Comment? Je sais pas. Ouais.
Bah oui.
Mais vous avez
ça
vu,
peut se discuter.
Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé dès qu'il y a eu la fin du temps additionnel, enfin, de la fin de la prolongation? Ouais. Il a couru vers le banc, aller voir Luis Lopez, le préparateur des gardiens, aller regarder tous les tireurs.
C'est normal.
Non mais je veux dire, le truc, c'est que le mec qui avait préparé le truc.
Encore heureux, j'allais dire.
Non mais je veux dire, il a été très bon. Après, il a été très bon. Et surtout, il y a eu, enfin, il y a eu des, enfin, Bernardo, ce que fait Bernardo Silva, c'est incroyable, quoi.
Par contre, Ederson qui tire, Julien.
Ouais. Bon, il a bien tiré. Hein.
Ouais, il a bien tiré, mais bon, enfin bon.
On dit qu'il est bon au pied. Il ouais, y a une réflexion que j'aimerais bien vous soumettre, Julien et vous tous, parce que comme t'as dit, la sérénité qu'habitait le Real au moment des pénaux. Bien. Oui, on parle la technique, la tactique, mais à ce niveau-là, les deux matchs qu'on a vus là, le Arsenal-Bayern dont on va parler, le match d'hier soir, et Manu, tu l'as vu de très près. C'est une expression qui est beaucoup utilisée en Italie par les entraîneurs. Je crois que Carlo Ancelotti l'utilise beaucoup, cette expression. Il dit, pour être performant à ce niveau-là, il faut beaucoup de personnalité. Alors, là-dedans, j'imagine qu'il y a l'aspect mental, Et c'est vrai, je veux dire, des fois, il y a que des bons joueurs dans ces équipes-là. Il y a des bons joueurs partout. Alors tu dis, oui, mais lui, il est peut-être un peu meilleur que lui. Tu fais des débats interminables sur, oui, mais lui, il est mieux que lui et tout. Mais si tu te souviens, oui, mais lui, tu vois, il avait fait un méga bon match ce jour-là. Donc, bon, il y a que des grands coachs. On est d'accord. Ancelotti face à Guardiola, Tuchel d'un côté face à Arteta, qui est un coach en devenir super fort. Hier, Luis Enrique contre Xabi, machin. Tu prends le match d'hier soir, Xabi, il pète un câble complet. Donc ça joue aussi sur la façon dont émotionnellement le Barça a géré ce match-là.
Il laisse tomber ses joueurs, Xabi, hier soir.
Voilà. Là, ce soir, bon, Carlo, tu sais le calme qu'il dégage et la sérénité qu'il est capable de donner à une équipe. Voilà. Et ça, je trouve qu'on ne dit pas assez que derrière les intentions de jeu qu'ont certaines équipes, tout ce qui est confiance au jour J, quand tu arrives avec les événements, l'état de forme, tout ça, ça compte, mais je pense largement autant que la tactique que tu vas mettre en place.
Le poids de l'histoire, du club. La preuve, Nacho, je vous jure, cette saison, c'est dur. Et ce soir, il fait un bon match face à Londres. Et après, il met le tir au but.
Sur la longueur d'un championnat, c'est autre chose.
Non, mais non, c'est la fin. Il va sûrement arrêter sa carrière à la fin de saison l'année prochaine.
Oui, renouveler la performance,
mais sur le moment.
Et être bon tous les dimanches.
Le tir au but, c'est Lucas Vasquez.
Non mais je suis d'accord, il a fait un bon match, il n'y a pas de souci Nacho, mais c'est comme Rudiger, ce genre de match c'est fait pour les défenseurs.
Exactement.
Oui, ça aussi.
Et quand tu es dans le bas, ces défenseurs-là, ils sont encore mieux.
Ils sont dans leur propre surface de réparation, ils ont deux lignes devant eux.
Voilà. Ouais, pour eux, ouais, ils défendent.
Mais ils mettent les tirs au but aussi. C'est-à-dire, non, parce que on est d'accord, on est de la personnalité.
Oui, bien sûr. Lucas Vasquez, la façon dont il va au péno, tu sens que c'est bien accroché.
Je termine un petit truc. Et Lucas Vasquez, il avait marqué le premier tir au but avec Zizou lors de la première Ligue des Champions de Zizou en 2016 face à l'Atletico, où il a fait tourner la balle comme un ballon de basket sur son doigt. Donc, il y a c'est aussi cette expérience. Après, quand t'es au Real, que t'as accumulé tellement d'expériences de grands moments, bah, tu les vis peut-être un petit peu mieux que les autres.
Voilà, c'est ça, ça fait la différence dans des détails comme ça.
Aujourd'hui, les équipes contrôlent tellement tout. Les coachs contrôlent les courses, les fréquences, la forme des uns et des autres à ce moment-là du match. Et un mec comme Guardiola, tous ces coachs-là, ils ont tellement de données. C'est même pas le foot d'il y a 10 ans où on disait, c'était mon grand truc, je disais le foot est un réducteur plutôt l'entraîneur doit réduire l'incertitude. Oui, c'est vrai, mais aujourd'hui, ils en gagnent tellement des tranches de certitude dans toute la prépa physique qu'au final, ça se joue à des choses qui sont la personnalité, le mental. Hier, le match d'hier soir, c'est ça. Combien de fois le PSG s'est déchiré parce que justement, ils n'avaient pas de personnalité.
Après le premier but, le PSG ne s'écroule pas.
Ils n'avaient pas de personnalité. Et dès le début de cette saison, on a dit un truc est en train de se passer dans cette équipe.
Il a ça.
Merci Fredo.
Julien,
on te garde encore un peu pour parler d'Arsenal si tu veux bien. On se retrouve dans quelques instants avec Paulo Breitner dans l'After. À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit 30, l'After Foot.
Gilbert Bribois.
La sortie est dans 10 minutes. Hein. Daniel Riolo également. Et Paulo Breitner qui nous rejoint. Julien Laurence lui est là déjà. Paulo, bonsoir.
Bonsoir mon cher Gilbert, bonsoir tout le monde.
Il est là Polo avec Tuchel, il est là.
Qui aurait dit
l'ordre revient les amis.
Il l'avait annoncé Polo.
Ah, Polo avait annoncé qu'il allait faire retourner les Anglais sur leur île.
Oui, non, mais ça, c'est une annonce de base. Polo, il ne veut qu'une chose, c'est enlever le bouchon de la baignoire.
Voilà.
Mais que le Bayern sortirait sa personnalité, parce que c'était le thème juste avant la pub, et ça, il l'avait dit.
Mais bien sûr.
On a dit que Tuchel ressemblait à Medvedev, ou on l'a jamais dit ça?
Il a un air Medvedev en tout cas.
Le Medvedev, genre le tennis, c'est pas l'ancien président russe. Non, je précise.
Polo, on t'écoute, vas-y, régale-toi.
Ouais, c'est ce qui est assez... alors déjà, Arsenal rate, je pense, la qualification lors du match aller en faisant des erreurs grossières. Et ce soir, ce qui est paradoxal, c'est qu'il faudrait remonter la rencontre en enlevant tous les instants qui ne sont pas importants dans un match de football et se concentrer sur les deux surfaces. La défense du Bayern et l'attaque du Bayern dans la surface d'Arsenal. Parce que la victoire en fait du Bayern, elle est manifeste. Mais ce qu'a fait Thomas Tuchel, et c'est assez extraordinaire, je trouve, c'est d'annihiler les forces d'Arsenal. Arsenal, ce soir, son coach, c'était presque un universitaire qui tout marchait bien sur le tableau noir. Et puis après, on est confronté à la réalité. Et puis on se rend compte que Saka, il est complètement bloqué par Mazraoui, qui a fait un match extraordinaire. Je le dis parce que ce week-end,
étudiant de l'ENA qui sort de l'école.
Exactement, et qui se rend compte ce que c'est qui découvre ce que c'est qu'un agriculteur en France. Et... Donc, si tu veux, c'est assez extraordinaire parce que si tu enlèves les deux surfaces et que tu regardes le milieu de terrain, par exemple, Arsenal est supérieur techniquement à ce qu'a fait le Bayern Munich. Uh-huh. Aussi version Thomas Tuchel, il faut dire que c'est pas le Bayern le plus flamboyant des 10-15 dernières années. Mais quand tu regardes les occasions où ça s'est passé ou comment la défense d'Arsenal, y compris le milieu de terrain récupérateur, Laimer, Goretzka, qui reviennent à un très bon niveau, ont, dans les duels gagnés les plus importants, tu vois que la rencontre se joue là. Et quand tu vois les occasions du Bayern, tu te dis, s'ils avaient été réalistes, je me demande s'ils pouvaient pas plier complètement cette rencontre. Alors il y a l'occasion de Martinelli en première rencontre qui aurait pu peut-être changer la rencontre.
Sur la barre.
Mais Goretzka sur la barre, suivi de Guerrero aussi dévié sur le poteau. Quand tu vois le nombre d'occasions et même là où ils font des mauvais choix avec Moussiala et tout ça, tu te rends compte que cette qualification, en tout cas cette victoire lors du match retour, elle est logique. Et Arsenal est une très très belle équipe, mais c'est une équipe encore en devenir. Et ce soir, ils se sont pris l'expérience bavaroise et ils l'ont pris en pleine tronche.
Julien, tu étais à City hein, ce soir, mais enfin, j'imagine que tu as suivi d'un œil ce qui s'est passé pour Arsenal.
Moi, j'avais le match sur le téléphone. Je suis d'accord avec tout ce que Polo vient de dire et je suis content dans un sens aussi qu'on ait parlé très tôt, Polo et moi, du facteur expérience, parce qu'on pouvait parler autant de qui était favori, qui n'était pas favori, cette équipe d'Arsenal qui, notamment au moment du tirage, avant le quart de finale aller, était dans une forme assez incroyable et dans un autre extrême, le Bayern. Et on avait tout de suite parlé avec Polo de ce facteur expérience qui allait beaucoup jouer aussi, en plus du fait que le match retour était à Munich aussi. Et on a eu raison. Après, ce soir, structurellement, dans sa structure de jeu, Arsenal, collectivement, effectivement, il y a plein de très bonnes choses. Le problème, c'est qu'il y a un moment où la structure peut-être ne suffit plus et il faut un moment de génie ou de brillance de tes joueurs clés, d'un Odegaard, d'un Saka, Martinelli, Rice, peu importe, Havertz, Gabriel Jesus, qui tu veux. Et ce soir, il n'y a pas eu ça. Et en face, j'ai trouvé cette équipe du Bayern qui m'a vraiment étonné, hein, sincèrement, dans la façon de gérer tous ces moments-là, les temps forts et les temps faibles, le but de Kimmich, les occasions qui sont pu créer, la façon dont ils ont attaqué pour une équipe qui est, on l'a dit, cette saison, Polo l'a dit, hein, pas forcément dans sa meilleure forme. Qui a traversé une grosse crise.
Ils ont tout joué là-dessus. Ils ont raté le titre et au contraire, t'as une approche qui est différente des deux côtés. T'as Arsenal qui est lancé dans une course absolument folle à la première ligue, qui est le rêve ultime parce qu'ils l'attendent depuis longtemps, parce que battre Liverpool et City, ce serait un truc de fou. Que la Ligue des Champions, c'est ce que je pense. Moi, je pense que dans leur esprit, c'est un peu secondaire. Alors que le Bayern, pour l'histoire, pour ce que c'est que ce club, c'est un club qui peut pas ne pas briller sur une année. Ils se sont fait voler la vedette par Leverkusen cette année, et ils sont en train de tout reporter sur cette Ligue des Champions.
Là, c'est vrai. Manu, c'est sur vrai. Arsenal.
Moi, je l'en veux pas hein, par rapport à l'élimination de ce soir, dans la mesure où depuis qu'Arteta est arrivé, cette équipe n'a fait que progresser individuellement et collectivement, et que je pense que c'est le plafond de verre cette année, c'est la championne. Je l'avais dit en début de saison dans les articles en anglais, j'avais dit pour moi la référence, ça sera leur parcours en Champions League. Et sincèrement, je suis impatient de voir ce qui va se passer au mercato en fait. Parce que je pense qu'ils travaillent très très bien à tête avec son staff. J'espère qu'ils sauront consolider l'ensemble de l'effectif et qu'ils pourront le rajouter comme ils l'ont fait l'été dernier avec 2-3 joueurs, tu vois, qui ont rajouté une plus-value. Et possiblement, étape par étape, ils vont se hisser de plus en plus avec les meilleures équipes européennes. Et moi, j'en suis certain, j'en suis convaincu.
On n'aurait pas un printemps Polo Breitner?
Bah, je pense qu'il est en train de rêver sur la réédition de 2013.
La Ligue des Champions, l'Euro en Allemagne.
Je te dis que l'ordre revient. Non, mais par contre, juste pour en revenir au Bayern, ce qui est peut-être intéressant, parce qu'il y avait quand même quelques fautes techniques, des pertes de ballons. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est une nouvelle mode. Dortmund l'avait fait au match aller contre l'Atlético, de commencer à relancer les relances au milieu de terrain, pour le poste du 6. Les relances dans l'axe, ça commence à m'énerver, parce que j'en ai vu aussi un petit peu ce soir. Quand tu perds un ballon à ce niveau-là, vu comment les attaquants adverses sont rapides, ça devient un peu pénible. Mais si le Bayern arrive à corriger et prendre la confiance, en disant maintenant, de toute façon, c'est le Real, c'est le derby d'Europe. Rappelons que ces deux clubs ne se sont jamais affrontés en finale de Ligue des Champions, alors que c'est les deux clubs qui sont le plus affrontés en Europe. Et s'ils arrivent à corriger ça, donc augmenter techniquement de quelques pourcents leur passe assurée et tout ça, je ne sais pas ce que ça peut faire, mais ça peut être intéressant en espérant évidemment que les blessés reviennent.
Merci les gars, merci Polo, merci Julien.
Merci, ciao.
Bonne soirée, à vous. Il nous reste 2 petites minutes 30. J'ai 2-3 infos à vous donner. Le vainqueur de notre jeu, bien sûr, qui arrive. Vous dire qu'aujourd'hui au Barça, on annonce que Rafael Marquez, c'est les médias catalans qui annoncent que Rafael Marquez, qui s'occupe de la réserve, va prendre la place de numéro 1 à la fin de la saison. T'as joué avec Marquez, toi, non?
Non, c'est la génération d'après.
Bon voilà.
Bon bah,
il paraît qu'il a des bons résultats.
On verra bien.
Voilà. Demain, évidemment, Lille et Marseille. On espère la même issue que pour Paris, ni qualif. Mais gros coup dur pour Lille, puisque Zegrova est forfait. Et donc, il manquera ce match, mais il pourrait être de retour dès ce week-end en championnat, a dit Fonseca. Coup dur pour Lille, quand même.
Ah oui, c'est un coup dur, parce que moi, j'aime bien son activité. Ouais.
Et puis, à Marseille, Gasset ne prendra pas de risque pour Klos et Sarr. Donc, on peut estimer déjà qu'ils ne seront pas titulaires, mais que sans doute qu'ils ne joueront pas en fonction du scénario. Et à Marseille, on mise sur la pression, le public. C'est ce qu'a dit Gasset, c'est ce qu'a dit Balerdi aussi aujourd'hui, tout en espérant.
Sans doute, il y aura.
En face, c'est qui? C'est Benfica, non?
Oui.
Ça, il y aura.
Ils ont pas l'habitude,
les joueurs soient à la hauteur de l'ambiance qu'il y aura dans l'espace.
Grosse soirée européenne à Marseille, c'est chaud quand même.
Oui, ils peuvent jouer le rôle du 12e homme, mais le match ne joue pas dans les tribunes.
Certes, Manu.
Et t'as en face de toi, c'est le poids de l'histoire. On en parlait justement.
Je pense surtout
le poids de l'histoire des grands clubs dans certains.
Je pense surtout qu'ils misent sur le public pour sublimer ses propres joueurs plutôt que faire paniquer.
C'est quand même un grand d'Europe.
Absolument. Et ce serait un super exploit de se qualifier.
Exactement.
Ce serait la semaine des exploits après Paris. Si Marseille le fait aussi.
Et vu comment Toulouse a joué, je me dis pourquoi pas.
Avant d'accueillir notre gagnant, je voudrais également vous signaler qu'un putsch est peut-être en cours à l'UNECATEF.
Mon Dieu.
Ouais. Raymond Domenech pourrait.
Après tant d'années.
Ouais. Il est candidat à sa propre élection des BMI, mais on apprend aujourd'hui que Philippe Montagnier et Claude Leroy. Pourrait.
À un moment, le croquage, ça va se terminer quand même, non?
Non,
l'âge de la retraite, ça n'existe pas.
Dans ces instances-là, ça s'arrête jamais.
Tu croques jusqu'au regard Philippe Pierre? Philippe Pierre, il veut pas lâcher le steak.
C'est même donné en héritage après, donc.
Philippe Pierre, il a plus de 80, il lâche pas le steak.
Non, mais je te dis, ces instances-là, ça ne changera jamais.
Bon, on verra si Domenech se maintient. Allez, notre gagnant est là. Cassie. Bonsoir, Cassie.
C'est fini. Bonsoir, Gilbert.
Non, c'est pas Capri, c'est Cassie. Donc Cassie, c'est pas fini.
Cassie, c'est chez Michel.
Cassie, bien sûr, la ville.
Oui, la ville.
Cassie, t'as été tiré au sort. Alors, écoute-moi bien, parce qu'il va falloir que tu fasses un choix. L'After t'offre ce soir soit 2 places pour assister aux épreuves d'athlée, dont les finales hommes et femmes du 4x100, finale femmes du 400, finale hommes du 400 mètres et plus le triple saut. C'est le 9 août, donc c'est fin de programme, le 9 août au Stade de France, ou bien 2 places pour la finale féminine de handball, avec de belles chances d'avoir l'équipe de France qui est championne olympique en titre et championne du monde en titre. Alors ça, attention, parce que c'est le 10 août à Lille, cette finale. Donc soit le 9 août l'athlée au Stade de France, soit le 10 août le handball à Lille. Cassie, qu'est-ce que tu choisis?
Ni un ni l'autre.
Tu choisis évidemment, mais évidemment, bravo, bien joué.
Je te comprends,
évidemment, c'est le bon choix.
Cassie, et je te dis bravo.
Merci à vous.
Merci et
Cassie,
je rappelle.
Ou Dodan.
Okay. Ah, aussi.
Aussi. Je vais prendre un petit peu de champagne.
En Belgique, on dit les casse-vitesse.
sache-le.
Bravo à Cassie, en tout cas, encore des places pour les Jeux Olympiques à gagner demain et vendredi sur RMC. Manu, merci d'être resté.
Ciao.
À très vite. Demain soir, on sera là avec une grande soirée. Coupe d'Europe, toujours de minuit à 1h30 du matin avec Marseille-Lille, l'After, la Libre Antenne et vous tous au 32-16, bien sûr. Bonne nuit à tous.
RMC, l'After Foot.